La cathédrale. La cathédrale est l'église la plus grande et la plus imposante de la ville. Sa structure originaire remonte à la fin du XIe siècle. Sa construction a été fort encouragée par le comte Ruggero en l'honneur de sa victoire contre les musulmans. Elle a été probablement bâtie à l'endroit où s'élevait la mosquée de la ville pendant la domination arabe. En fait, la construction que vous voyez aujourd'hui est dans l'ensemble une structure baroque, modifiée au XVIIe siècle pour moderniser l'église, suivant les canons stylistiques de cette époque-là. Des traces de l'édifice originaire se trouvent à l'extérieur, dans l'abside ayant des fenêtres encadrées d'évidentes factures islamiques. À l'intérieur, la voûte d'arête s'ouvrant dans une chapelle sur le transept, sur la partie gauche, date de la période normande. Sur la façade principale, avant d'entrer à l'intérieur, prenez le temps de regarder le haut-relief représentant le comte Ruggero qui, sur son cheval, piétine un musulman. Car selon la légende, la cathédrale a été bâtie à l'endroit où Ruggero a vaincu le musulman Mokarta, qui avait assiégé la ville. À gauche, vous pourrez admirer un clocher baroque qui remonte à la moitié du XVIIe siècle. L'intérieur, sur trois nefs, scandé par des colonnes en style dorique, est une explosion d'ouvrages, de fresques, de statues et de tableaux. Nous vous signalons les œuvres principales, mais nous vous recommandons d'entrer dans les chapelles pour y admirer les tableaux, les objets et les éléments architecturaux qui les décorent. Dans la nef de gauche, vous pouvez marcher sur une surface en verre qui vous permettra d'admirer la base des anciennes colonnes originales de l'église. À l'issue de la nef gauche, ne ratez pas la croix en bois datant du XIIIe siècle. La particularité de cette croix, vous la remarquerez en la contournant. Cette croix est peinte sur les deux côtés. Sur le côté antérieur, il y a la représentation du Christ. Sur le côté postérieur, il y a l'anneau mystique. Et aux quatre extrémités, les symboles représentant les quatre évangélistes. Ce qui frappe, ce sont surtout les couleurs très intenses et le mélange de styles caractérisant cette croix. Nous ne connaissons pourtant ni les auteurs ni les conditions dans lesquelles cet ouvrage précieux a été réalisé. Sur le transept droit, dans une niche, il y a un tableau représentant le Christ Pantocrator, dit aussi « bénissant », d'époque byzantine. La facture byzantine de cette œuvre est évidemment décelable dans les traits du visage du Seigneur. Dans l'abside, sur l'autel central et à un emplacement privilégié, se trouve l'œuvre la plus précieuse qu'abrite cette église. C'est le groupe de sculptures commandé à Antonello Gaggini, bien que ce fût son fils Antonino, qui en réalisa la plupart. Cette œuvre date de 1532, mais elle a fait par la suite l'objet de remaniements par d'autres artistes. Il s'agit d'un groupe de 6 sculptures en marbre de la Transfiguration. Vous y remarquerez Jésus sur le mont Tabor, accompagné des prophètes Moïse et Élie, ainsi que des disciples Pierre, Jacques et Jean. Ce groupe de sculptures est mis en valeur selon les conditions d'éclairage, et notamment en fin de matinée, lorsque la lumière se reflète en filtrant du plafond et en éclairant l'abside, mettant ainsi les statues au premier plan. Dans le vestibule de la salle du chapitre, vous trouverez deux sarcophages d'époque romaine que caractérisent des contrastes et des clairs-obscurs marqués. Ils sont ornés de bas-reliefs représentant des sujets propres à cette époque-là. Une amazonomachie et la chasse de Méléagre. Des fresques par Giambecchina, une statue de Saint-Vincent attribuée à Antonello Gaggini, les statues de la Vierge et l'Enfant et de Saint-Jean-Baptiste sont d'autres trésors que garde ce temple et que nous vous suggérons de regarder.